très, très, très gros bonjour à tout le monde qui nous écoute présentement. Bienvenue à cette critique de Yugi Capsule Express. Deuxième Capsule Express de la saison 3, deuxième Capsule Express du mois de septembre. Cette fois-ci présentée par Bedu, comme ce sera le cas durant toute la saison 3. Les deuxièmes capsules de chaque mois vous seront présentées par Bedu. Avant de commencer, on fait le petit rappel habituel. Vous êtes sur une plateforme numérique présentement en train de nous écouter. Il y a un petit bouton qui s'appelle télécharger ou sinon un petit bouton qui s'appelle abonner. Sinon, c'est un rating d'étoiles. Allez cliquer sur un de ces boutons-là. Vous nous aidez grandement. C'est pour nous une forme de publicité gratis que vous nous faites. Donc, on apprécie vraiment beaucoup parce que, oubliez-le pas, nous, on ne fait pas un seul sou en faisant ce podcast. On fait ça bénévolement. Pour votre plaisir à tous, pour vous, parce qu'on aime ça jaser, on aime ça parler de ce qu'on aime, puis on aime ça essayer de vous guider dans toute cette panoplie de films et de séries télé, de jeux vidéo qui existent présentement. Donc, on fait ça pour vous, complètement gratuitement. Donc, merci beaucoup d'appuyer sur ces boutons-là afin de nous aider à vouloir continuer et aller chercher encore plus d'auditoires qu'on peut guider à travers ce fabuleux monde. On a également la page Facebook, n'oubliez pas la page La Critique de Yugi sur Facebook. Abonnez-vous, partagez. C'est une autre forme de publicité gratuite que vous nous faites et vous nous aidez vraiment beaucoup. Voilà, c'est dit. Je passe immédiatement au sujet de cette deuxième capsule, la série Muscle and Mayhem, qui est disponible sur Netflix. Je vais laisser Bedu présenter cette série documentaire. Donc, fan de documentaire, c'est pour vous. Alors voilà, je n'en dis pas plus. Bedu, à toi la parole, mon ami. Dis-nous c'est quoi Muscle and Mayhem.
Merci Yugi de cette présentation. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vous parle de la série Muscles and Mayhem, une série documentaire que j'ai écoutée sur Netflix, qui date de 2023, donc c'est tout nouveau là, dans les dernières semaines. Et ça raconte l'histoire de la série américaine American Gladiators, qui était une série, on ne dirait pas de télé-réalité, mais c'est une série sportive qui a joué de 1989 à 1996 à la télé, qui était produit par la chaîne Samuel Goldwyn, donc qui passait entre autres à ABC, si je ne me trompe pas. Donc en effet, c'est ça, c'est ce qui est devenu ABC. Donc au total, la série sur Netflix est composée de 5 épisodes d'environ 45 minutes, mais la série originale American Gladiators est 7 saisons pour 208 épisodes. Et quand on voit comment les gladiateurs, qu'est-ce qu'ils avaient à subir, 208 épisodes à vivre ça, c'est quand même beaucoup. Dans la prémisse, ça dit la biographie non autorisée de American Gladiators. Je suis pas tout à fait d'accord. Je vais un peu vous expliquer pourquoi. Ça dit non autorisé. Probablement que ça n'a pas été autorisé par la direction, les producteurs originaux et ou le créateur. Ce sont deux personnes qu'on ne verra pas. Là, je vais en parler un peu plus tard. Mais quand même, on voit beaucoup de gladiateurs originaux, les principaux, je dirais même, sur peut-être la douzaine là, de réguliers, là, on les voit presque tous. On voit la productrice déléguée au contenu, donc quelqu'un qui a travaillé sur la série, et le réalisateur aussi est présent pour des entrevues sur la série Netflix. Donc, non autorisé, je peux comprendre, il y a beaucoup d'images d'archives aussi. Est-ce que les images étaient libres de droit, ce qui permettait d'en montrer autant? C'est possible, mais c'est quand même, pour une biographie, je veux dire non autorisée entre guillemets, c'est quand même très bien étoffé. C'est une chose que j'ai appréciée. Des fois, quand on va faire des biographies non autorisées, il y a beaucoup de spéculations, on fait plus de reconstitutions que d'autres choses. Là, on voit vraiment des vraies images de la série originale, les blessures quand les gladiateurs en parlent, on voit ce qui s'est passé. Il y a même des anciens concurrents aussi qui participent à l'émission. Donc c'est quand même vraiment intéressant, un bon casting, ça m'a quand même beaucoup plu. Comme je disais tout à l'heure, les absents sont le créateur de la série. John Ferraro, et les producteurs de la chaîne Samuel Goldwyn, qui, bien sûr, n'ont pas participé, et je vais vous expliquer plus tard pourquoi je les comprends de ne pas avoir participé. Donc, comme je disais tout à l'heure, le show était à la télé de 1989 à 1996. La majorité des gladiateurs étaient, pour ceux qui ne connaissent pas la série, là, des bodybuilders, un joueur de football, là, entre autres, là, qui est un des personnages des gladiateurs principaux. C'était des gens qui étaient, il y avait un physique impressionnant, mais c'était pas des athlètes. Donc, les épreuves étaient faites, des épreuves souvent de force pure. Donc, on mettait pas l'accent sur le cardio, mais vraiment plus là, sur le physique. On était dans les années 90, on est dans les années du scandale des stéroïdes de la WWF à l'époque. On en parle dans American Gladiators. Oui, ils utilisaient des stéroïdes, bien sûr. La méthode de testage était un peu douteuse. Donc, à un certain moment donné, ils ont dû aborder le sujet avec les gladiateurs parce que ça faisait quand même les nouvelles. Et ils ont dit, bon, ben parfait, vous allez être testé dans 6 semaines. Fait que ça a donné le temps aux gladiateurs qui se droguaient là, de stéroïdes à être clean pour les tests. Et eux-mêmes disent, ben on n'a jamais vu les résultats des tests. C'est peut-être une raison pour laquelle les producteurs d'émissions ont décidé de ne pas participer à la série sur Netflix. Donc, au départ, il s'agissait d'une compétition où le gagnant gagnait un poste de gladiateur pour la saison suivante. Mais là, honnêtement, la première saison, je me souviens pas de l'avoir vu, le 1989, j'étais un peu plus jeune, j'écoutais moins la télé en anglais, mais on voit là, les décors étaient cheap. Les épreuves, c'était compliqué, c'était dangereux. Ils savaient pas trop où est-ce qu'ils s'en allaient avec ça, je pense. Ils expliquaient aussi que changer le setup des différents jeux, c'était très long. Et le public pouvait se retrouver là, des fois là, 4 heures de temps pour un seul épisode d'une heure. Les changements de décor étaient tellement longs qu'à un moment donné, ben ils ont dû simplifier au fil des saisons. Parce que les codes d'écoute n'étaient pas très très bonnes pour la première année. Avec les changements qu'ils ont eu, là, ils ont vraiment eu un effet positif. Ils sont ensuite partis sur la route puis allaient affronter dans des arénas le meilleur de la ville là. Puis là, ils faisaient comme des espèces d'auditions libres. Puis là, les gens se présentaient. Ça a quand même eu un bon succès et ça a quand même relancé la franchise. Ensuite de ça, on voyait, là, comme je disais, que l'organisation était vraiment déficiente. Et malheureusement, là, des gens qui sont quand même blessés assez gravement. Et bien sûr, à cette époque-là, les gens n'avaient pas d'assurance et n'étaient pas couverts. Donc, c'était vraiment là. Ils jouaient blessés ou sinon consommaient des painkillers pour pouvoir passer au travers. Parce que s'ils arrêtaient, ils étaient remplacés. Puis probablement pas rappelé. À un certain moment donné aussi, dans l'émission, ils vont aborder le fait qu'ils se sont rendus compte que leur contrat est un contrat fixe à vie, donc on paye un montant. Ça va être ce montant-là à toutes les années, à vie. Aucun retour sur les marchandises. On voyait aussi qu'il y avait beaucoup de produits dérivés. Aucun retour aussi sur les... la tournée, il y a une certaine année où ils vont partir en tournée toute l'été. Je pense que c'est 50 villes pendant l'été à faire des spectacles là, dans les divers arénas, comme je disais tout à l'heure. Pas un sou de plus. Oui, ils étaient logés, nourris, transportés, mais ils ne faisaient pas une scène de plus. Certains d'entre eux vont arriver et vont se dire « Bon, ben parfait, nous, on en veut plus, on veut notre part du gâteau. » Ah, soudainement, ils ont été remplacés par d'autres gladiateurs. Donc, ce type de comportement-là a probablement fait que les producteurs n'ont pas voulu s'associer à l'émission, bien sûr. Il y a eu un petit clin d'œil. Le finaliste, donc pas celui qui a gagné, mais celui qui finit deuxième, la saison 2, est un dénommé Rico Constantino. Pour les fans de lutte, et c'est bel et bien Rico qui était le manager de Billy et Chuck, donc un ancien lutteur de la WWE. Je vais essayer là, d'aller retrouver des images. Là. J'ai trouvé cette information-là en faisant mes recherches et j'ai quand même trouvé ça drôle. Et le finaliste aussi de la saison 7 est un homme américain, là, un républicain qui est élu à la Chambre des congrès maintenant. Donc c'était quand même très drôle. Les autres sont des illustres inconnus, sauf un des candidats là, où ils vont parler un peu de lui qui était quand même très dominant. Ils vont un peu insinuer là, qu'ils ont truqué la finale pour pas qu'il gagne. Ça, j'en prends et j'en laisse, bien sûr. Mais le gars est quand même de physique imposant pour un Average Joe. Puis c'est un petit peu ça qu'au fil des années, là, ce qui arrivait, c'est que les réalisateurs étaient forts, mais ils mettaient des candidats, donc des gens là, qui les affrontaient, qui étaient de la même carrure. Fait que c'était égal, entre guillemets, puis les gladiateurs paraissaient des fois mal, parce que les gens qui venaient les affronter, des fois, étaient des meilleurs athlètes. Donc, au fil des saisons, ils ont opté pour le Average Joe, là, la personne un peu générique, et mettre l'emphase sur le côté de sous-estimer un peu le underdog. Et puis, là, les gens, les téléspectateurs, ben, ils s'identifiaient aux concurrents. Et puis, bon, mais ben, ça a quand même eu un bon succès. Ça a aussi aidé là, pour les codes d'écoute. Sinon, ce que je peux dire aussi, c'est qu'il y a eu des plans pour faire revivre la franchise. En 2014 et même en 2021, il y a eu un revival en 2008 avec Hulk Hogan et Leila Ali, la fille de Mohamed Ali. Je me souviens d'avoir vu le remake, ben de deuxième version. Ça a duré 2 ans. Moi, j'étais plus un auditeur de la première mouture. Donc, début des années 90, là, j'avais 12, 13, 14, 15 ans. Je me souviens d'avoir vu ça à la télé en anglais. C'est là que je commençais à écouter la télé en anglais. Donc, ça m'a quand même rappelé des beaux souvenirs. Dans cette série-là, j'ai quand même beaucoup apprécié les 5 épisodes. Là, j'ai écouté ça en série, un par soir, sur 5 jours, pour pouvoir, après le premier épisode, j'ai fait « Ah, ok, ouais, je veux vraiment voir qu'est-ce qui se passe. » Puis ça m'intéresse. Ce que j'ai apprécié, bien sûr, c'est la présence d'anciens gladiateurs de la production. Donc, on voit qu'il y a quand même du contenu. C'est crédible. Est-ce qu'ils disent tous la vérité? Là, je veux dire, je ne leur ferai pas passer un polygraphe. Mais ça se tient beaucoup. Les gens sont interviewés. Il y a une belle brochette. Donc ça, j'ai quand même aimé ça. Ça fait qu'on voit pas seulement un côté de la médaille. Parce que la productrice et le réalisateur original, eux, ils vont parler. Et puis les gladiateurs aussi. Donc on a quand même plusieurs facettes. Ce que je trouve quand même très intéressant. J'étais aussi content de voir qu'est-ce qu'ils sont devenus. En tant qu'humains. Qu'est-ce qu'ils font maintenant. C'est quand même le fun. De voir qu'est-ce qu'il y en est. On ne sent pas nécessairement de la vengeance envers l'organisation. On sent que ces gens-là se sont fait exploiter, n'ont pas gagné de l'argent à la hauteur de ce à quoi ils auraient eu droit. Mais il n'y a pas vraiment de vengeance. Même il y a même un petit côté souvent où un peu drôle, là, ils vont rigoler, se rappeler des bons souvenirs, dire ah, ça c'est arrivé, c'était drôle. Puis c'est pas nécessairement drôle, mais un bon moment, mais on sent que ça a été là, des belles années pour plusieurs d'entre eux. Il y a quand même beaucoup de nostalgie dans leur ton aussi, ce que j'ai trouvé intéressant, qui venait me chercher aussi, parce que je fais bien sûr là, partie de cette génération-là. Le fait aussi d'aller... ils vont quand même loin dans les histoires. Là, on parle de sexe, drogue, stéroïdes, la tournée là, dont je parle, puis l'épuisement qui venait avec ça. Eux autres, ils étaient brûlés. À un moment donné, ils disent à la production, le fait d'en venir d'autres, on va tous tomber au combat, on est tous blessés. Puis c'est là qu'ils vont en amener quand même beaucoup là, dans la saison. 1992, je crois. Et puis là, il y en a plein de nouveaux gladiateurs qui vont arriver en renfort. Et ça va bonifier là, pour la fin là, des dernières saisons. Il y a comme des petites reconstitutions. Souvent, on voit ça aussi avec des acteurs, mettons, puis c'est en effet à contre-jour, etc. Là, c'est en dessin animé. C'est simpliste, c'est sympathique. Donc, ils racontent, par exemple, deux gladiateurs qui étaient en voiture ensemble sur la route. Puis là, à un moment donné, ils vont chicaner. Ben, c'est une représentation en dessin animé, c'est sympathique. C'est, j'ai bien aimé. Ça fait partie de mes points positifs. Ce que j'ai moins aimé, il y a quand même quelques suppositions versus des gens qui sont absents, donc qui ne sont pas là pour se défendre. Des fois, je suis comme moi, ok, des accusations. Entre autres, là, il parle d'un ancien gladiateur, le Titans, qui s'était battu avec, ben, presque battu avec un arbitre. L'arbitre l'avait disqualifié dans une compétition. Il avait pogné l'air, il était parti après l'arbitre. Et plusieurs personnes en parlent. On suppose ce qu'il appelle le Roid Rage, là, donc l'espèce de rage dû à l'utilisation stéroïde. Titan n'a pas voulu participer à l'émission, donc c'est comme il y a de la supposition, mais. C'est crédible dans ce qu'il dit. Ça se peut parce que, bon, on savait que les gens faisaient usage. C'était juste que des fois, il y a un petit peu des petites pistes. Là, tu fais, ouais, ok, oui, j'en prends, puis j'en laisse. Mais bon, ça reste. Que c'est, en général, j'ai été très, très diverti. Mes attentes étaient plus basées sur la nostalgie. Donc, je voulais voir un peu qu'est-ce qu'il y en était. J'étais curieux de voir le premier épisode. Et j'ai accroché quand même rapidement. Donc, comme je disais, en 5 jours, j'ai écouté les 5 épisodes. Excusez, j'ai un petit hockey. J'ai appris des choses que je ne connaissais pas. C'était quand même bien. J'ai beaucoup aimé les images d'archives. Même de la première saison, on voit les espèces de décors. Ils sont sur des épreuves, là, des stands un peu tout croche. Puis ça, c'est, j'ai vraiment aimé le côté réel. Et la nostalgie, j'en ai parlé. Au niveau des critiques, IMDb donne 7.2 sur 10. C'est sûr qu'il n'y a pas énormément là, de reviews. Vous le devinerez. C'est pas quelque chose qui a été très, ben, peut-être très écouté, oui, mais ça n'a pas été super là, comme les grands blockbusters. Mais plus de 2000 reviews, là, c'est quand même très bien. Là. Et au niveau de Rotten Tomatoes, on est à 8.1 sur 10, ben 80%. Mais seulement sur l'audience. Donc, des critiques officielles n'ont pas donné de notes là, sur la série. Moi, de mon côté, je vais quand même donner un 8.5 sur 10. Tous les gens de ma génération, là, dans la quarantaine, qui ont connu American Gladiators, je le conseille fortement. Ces 5 épisodes, ça s'écoute très bien. Et on va apprendre des choses. On va être vraiment content de savoir aussi ce que les gens sont devenus. En faisant mes recherches, il y en a plusieurs qui... quelques-uns qui sont décédés. Et puis, non, c'est quand même vraiment bien. J'ai beaucoup aimé. Ça passe vite. Donc, un petit divertissant. Là, vous savez pas trop quoi écouter. Sortez le premier épisode, puis vous allez voir si vous allez aimer ça pour la suite. Faut, je crois, avoir écouté la série originale. Parce que sinon, on a peut-être moins d'intérêt, mais... Quand même, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil. Donc, Muscles and Mayhem sur Netflix, une série documentaire de 5 épisodes disponible dès maintenant. Alors, sur ce, on se revoit bientôt pour la capsule du mois d'octobre. Merci, soyez sages.
Merci beaucoup, Bedu, pour cette belle critique de la série documentaire Muscles and Mayhem qui est disponible sur Netflix. Quand même une bonne note pour une série documentaire, donc ça me semble très intéressant, surtout que moi-même j'ai également écouté, pas religieusement, mais quand même certains épisodes de la série American Gladiator, donc c'est une série qui pourrait beaucoup m'intéresser. Alors merci beaucoup Bedu pour cette belle critique, merci à tous d'avoir été à l'écoute encore une fois cette semaine, désolé encore pour les petits délais de sortie. Pour ces 2 capsules du mois de septembre, les 2 premières capsules de la 3e saison. Comprenez qu'on ne fait pas que ça du podcast. Comprenez qu'on fait ça également bénévolement. On a tous une vie, on travaille, on a une vie sociale et en plus, moi et Bedu, on fait un retour à l'école également. Donc, ça nous prend encore du temps là-dessus. Et en plus de ça, il faut qu'on écoute des choses pour vous. Il faut qu'on joue à des choses pour vous. Donc, c'est sûr que ça nous prend un petit peu plus de temps. C'est l'une des raisons principales pour laquelle on a décidé de faire uniquement 2 capsules par mois durant la saison 3. Donc, soyez indulgents, nos capsules, on va essayer de les sortir le 10 et le 20 de chacun des mois. Sinon, ça sera aux alentours de ces dates-là. Mais le meilleur moyen de savoir quand est-ce que les épisodes sont disponibles, c'est d'aller sur notre page Facebook, La Critique de Yugi. Abonnez-vous, partagez. À chaque fois qu'un épisode est disponible, c'est là qu'on le poste. Donc, c'est la meilleure façon pour vous de savoir quand est-ce que nos épisodes sont disponibles. Donc, page Facebook, La Critique de Yugi. Alors, merci à tous d'avoir été là. Prochain épisode, c'est l'épisode mensuel du mois d'octobre. On a des petites idées, mais on n'est pas encore super branché sur le sujet. Fort probablement qu'on va vous parler du jeu Baldur's Gate 3, qui est principalement un jeu PC, mais qui a été mis également sur la PlayStation 5. Je crois même sur la Xbox Series X, je crois que le jeu est également disponible, ou du moins il le sera prochainement. Un gros jeu RPG à la Donjons et Dragons. Donc si vous êtes un fan de jeux RPG, si vous êtes un fan de Donjons et Dragons, je pense que vous allez beaucoup aimer notre critique de ce jeu. Et on risque fortement de vous parler également de la série Ahsoka, qui est disponible sur Disney+, donc une série de l'univers de la Guerre des Étoiles. Et un troisième sujet qu'on n'est pas encore vraiment décidé, mais tout ça sera annoncé encore une fois sur notre page Facebook. Donc merci encore une fois d'avoir été là. On se revoit donc le 1er octobre pour l'épisode mensuel de la critique de Yugi. Merci à tous. Passez une excellente semaine. À bientôt tout le monde.